La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.
Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble sur Radio Grenouille pour une émission de La parole au travail. Aujourd'hui, écoutons ensemble un cheminot électromécanicien dans un atelier parler de son travail. Mais il nous parlera d'un travail qu'il ne fait plus, parce qu'il a connu un moment de folie, d'égarement, dit-il. Ce qui l'a fait craquer, ce cheminot, ce qui l'a rendu fou, c'est que son chef lui dise qu'il ne faisait pas son travail. Lui qui se battait depuis des années pour parvenir, malgré tout, malgré la SNCF, à assurer un service de qualité dans des conditions respectueuses de la santé des cheminots. Lui qui était face à un mur de silence et de déni. Ce qui l'a fait basculer, c'est qu'on lui dise qu'il ne travaillait pas. Écoutons aujourd'hui, derrière le bruit des trains qui passent, dans les ateliers, ce qu'il se passe. Écoutons comment un homme s'est peut-être battu pour son métier jusqu'à le perdre. Bonne écoute sur Radio Grenouille.
Et ce qui était fantastique, moi, quand je suis arrivé à la SNCF, c'est ça, c'est de se poser des questions sur son travail, c'est de se dire, mais on me demande ça, mais est-ce que je peux le faire? Comment je peux le faire? Avec quoi je peux le faire? Avec quelle équipe? Quel outillage? C'était vraiment une vision générale du travail, pas que proprement dit technique sur ce que tu faisais, c'était général. Voilà, tu n'étais pas... Quand tu étais cheminot, c'est que tu étais... On te demandait d'être bon dans ton travail, mais aussi d'être bon sur le côté sociétal et social et environnement de où tu étais, quoi. Voilà. Voilà, donc, sanction suprême, hein, la boîte, nous, c'est fait comme l'armée. Donc, c'est une hiérarchique, tu as un cadre militaire, si tu dépasses ce cadre, bon, ben, sanction, tu vas à la porte. Ce qui est chaud, c'est que tu te rends compte que pour aller 30 secondes, une minute d'égarement et de folie, tu payes une vie, quoi.
Le TGV 5323 est à destination de Marseille-Saint-Charles, entre en gare.
Donc moi j'étais opérateur de maintenance sur en électricité sur le matériel moteur, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est rame, tu sais, de transport régional, locomotive, tu arrives avant 8h30, on va dire 8h15, tu arrives, on a des vestiaires, tu sais, parce que tu es tout en bleu, hein, tu es en tenue de travail, donc tu arrives à ton vestiaire, tu te changes, les 6 à l'équipe. Donc on boit le café, le machin, puis on attend le chef d'équipe qui vienne nous donner l'embauche. Donc par exemple, tu vas faire la visite, alors suivant les visites que c'est, donc je te prends une VG par exemple d'une rame, visite générale, 23 516 dans un hangar, et voilà. Et on nous disait, tu vas faire telle rame ou telle locomotive, on se dispatchait sur les différents, alors ce qu'on appelle des voies, nous, hein, des voies de maintenance. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'engin, il rentre. Quand il rentre, il y a un ensemble d'essais à faire, déjà, d'essais en fonctionnement. Donc la machine en marche, tu fais des vérifications de fonctionnement sur plusieurs éléments, mais tu as nous qui faisons des essais, notre équipe, c'est-à-dire ce qu'on appelait les appareils électriques. Tu as les frénistes qui interviennent, qui font leurs essais aussi. Tu as les AI, c'est-à-dire l'habillage intérieur, qui font leurs essais aussi. Alors eux, ils faisaient des essais de clim, d'éclairage voyageur. Il y a les enregistreurs, indicateurs enregistreurs, IE, ce qu'on appelait, qui faisaient toute la partie sécurité. Donc, il y avait les bogies caisses. Les bogies caisses, c'est ceux qui faisaient toute la partie mécanique de l'engin. Donc, quand toutes les équipes avaient fini leurs essais, on coupait la machine, tu pouvais attaquer ton travail. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle sécurité. Encore une fois, tu dois mettre toute la machine à la terre. Donc tu as tout un jeu de clés à l'intérieur de la machine pour pouvoir accéder à tes placards techniques du tableau de bord, hein, où tu dois vérifier les éclairages, le fonctionnement des commandes, tout ça, jusqu'à tout ce qui est la gestion du moteur, donc c'est-à-dire tu as des contacteurs qui gèrent la tension, le machin, l'intensité pour arriver dans le moteur. Tu as une GVG par exemple, alors c'est grande visite. On te disait par exemple il fallait vérifier le tableau de bord. Donc tu ouvrais, tu regardais si tout était en os, c'est-à-dire que tu n'avais pas de cosse de défaite par exemple, hein, si tu n'avais pas de dysfonctionnement, donc à tes essais, si tu n'avais pas vu de blocage mécanique, etc. Donc tu es électricien, mais tu dois vérifier quand même des parties mécaniques quand même. Donc tu dois nettoyer, tu dois regresser derrière, tu sais, pour éviter l'usure prématurée de la chose. Tu dois nettoyer tes barres de conduction, plein de trucs comme ça, tu vois. Voilà, alors c'est des trucs basiques de bête, tu vois. Après, tu rentrais dans les compartiments techniques, c'est-à-dire tu ouvrais tes compartiments techniques, tu avais je sais pas combien de condensateurs, de résistances à vérifier, qu'elles n'aient pas éclaté, qu'elles ne soient pas gonflées, qu'il n'y ait pas un amorçage quelconque quelque part, que tout allait bien, c'est le visuel, tu vois. Et après, tu regardais techniquement tes contacteurs, parce que tous tes appareillages sont commandés par contacteurs qui doivent envoyer soit de l'alimentation sur le moteur, soit pour faire du freinage, etc. Donc, tu vérifies tous tes contacteurs. Donc, tu défaisais, il y avait des cheminées à défaire pour éviter les arcs électriques. Tu les démontais, tu regardais les contacts si c'était bon, tu les limais. Tu remets en bon état les contacts. Tu vérifies les contacts auxiliaires. Tu vérifies que le pneumatique, donc, parce que ça c'est commandé électriquement, mais ça fonctionne en pneumatique, qu'il n'y ait pas de fuite pneumatique, qu'il y ait une espèce de mémo, tu vois, pour chaque intervention ou... où ils te disent, nettoyage de la partie, hein, du conducteur ou je ne sais pas quoi, vérification des contacts, mesure des contacts, tu devais marquer les mesures, etc. Fonctionnement, voilà. Parce que tu dois regarder le fonctionnement général, c'est-à-dire que le contacteur doit venir se fermer mâchoire contre mâchoire. S'il y a un décalage de tant de millimètres, ça veut dire qu'il fonctionne mal, donc il faut le changer, tu vois. Bon, eh ben peut-être que le contacteur, tu ne l'avais pas en stock. Mais normalement, le travail aurait voulu que, du coup, une fois que tu as fini toute ta visite, que tu as noté tous les dysfonctionnements et tout ce qu'il fallait que tu fasses, normalement, tu dois remplacer donc, tout ce que tu as vu. Voilà. Et c'est là où le bas blesse, c'est que ben, peut-être que tu ne peux pas tout faire non plus dans ce travail-là. Voilà. Donc peut-être le contacteur qui a changé, tu ne l'as pas en stock, donc il faudra que la machine revienne pour le changer. Ou les contacts, ou je ne sais pas, n'importe quoi. Tout ce qui n'était pas d'une urgence absolue, dans le sens où à part un contacteur qui a cramé, il a cramé là. Et tu ne peux pas faire autrement que de le changer avant de lâcher la machine. Tu peux jouer avec, tu vois. Alors, ce qui se passe assez souvent, c'est que quand tu n'as pas de machine, de stock de remplacement d'un organe, on te faisait prélever. C'est-à-dire que tu avais une machine qui était garée quelque part dans le dépôt, Et cette machine, on s'en servait de stock. Donc, c'est-à-dire que... Alors, c'est là le vice. Et c'est là où tu commences à dévier sur ton objectif. C'est-à-dire qu'on te fait, par nécessité, prélever un autre organe. Mais comme tu n'as que celui-là, tu ne sais pas non plus s'il est bon, cet organe. Donc, tu le regardes plus ou moins, tu te dis, bon, ça va, il n'est pas trop mal par rapport à celui que je dois changer, mais il n'est peut-être pas très bon non plus, tu vois. Donc, mais tu étais obligé de le prendre quand même, puisque c'était ce que tu avais de mieux. Ah, par contre, tout l'environnement est très péjorant pour la santé à tous les niveaux, dans le sens où les machines, elles sont très poussiéreuses, déjà, premièrement. Donc, quand tu rentres dans ces engins-là, tu rentres dans un brouillard de poussière, quoi. En fait, tu respires de tout. Alors, le fonctionnement des contacteurs même, ou cuivre sur cuivre, ça te fait des dépôts de cuivre. Donc, je te disais, moi, je suis rentré, les machines, elles étaient toutes amiantes, dans le sens où toutes les parties qui devaient être protégées du feu, d'incendie, d'arc électrique et tout, étaient toutes en amiante, parce que l'amiante, c'était le produit phare dans l'industrie par rapport à tout la protection anti-feu, etc. Donc, c'était plein d'amiante, plein de poussière d'amiante. Tu as les graisses en permanence, les solvants. Puisque pour nettoyer les graisses, forcément, tu vas utiliser des solvants. Les graisses, elles sont en graphite, au carbone, en tout ce que tu veux. Alors, graisse mécanique, graisse électrique, etc. Le contexte physique de la machine, comme je te disais, il faut que tu rentres dans une machine sur 20 mètres de long et 3 mètres de large, un ensemble de fonctions et d'organes, qui fait que tu fais un gain de... Les bonhommes, quand ils étudient et qu'ils font les engins, ils essayent de gagner au maximum la place, d'enchevêtrer les éléments les uns avec les autres, de façon à ce que t'y a pas un immeuble à mettre sur rail. Donc, ce qui fait que toi, à l'entretien et à la maintenance de ces engins, tu es toujours dans des positions de dos, courbé, assis, tout de travers. Donc, c'est dans le noir, parce que les engins sont éclairés, mais c'est de l'éclairage en 72 volts. Donc, tu es toujours obligé d'avoir une frontale. Donc, les yeux, ils sont toujours sollicités en permanence. Tu as le bruit, parce qu'un engin qui rentre, quand tu fais les essais, c'est des dB hallucinants, hein, quand tu fais fonctionner un engin. Le train, nous, quand tu fais les engins et tout, ça a été relevé par les CHS et tout, on est toujours autour de 80-90 dB en permanence. Les engins, ils rentrent, tu fais les essais de frein, bon, mais tu te prends une déflagration sur je ne sais pas combien de centaines de dB. Alors, c'est toujours sur un court temps, par exemple, mais répété X fois dans la journée, dans la semaine, dans le temps, dans l'année, etc. Tu es toujours dans un élément où tu es agressé. Tu t'en rends pas compte parce que tu es dans ton métier et tout, mais tu es agressé en permanence. Le souci, c'est que les machines ont évolué, on a reçu du nouveau matériel, mais pareil, une bataille monstre pour être formé sur les nouveaux matériels. C'est incroyable de voir que nos propres cadres, etc., voyant les nouvelles machines arriver, ne nous aient pas formés correctement, enfin, ne nous aient pas envoyé en formation ou qu'on soit vraiment tip-top sur l'engin avant qu'elles arrivent même. Parce qu'une fois qu'on les a vus arriver, on s'est débrouillé, il a fallu qu'on fasse les papiers Windows, quoi, qu'on dépouille les machines, qu'on sache comment elles fonctionnent et qu'est-ce qu'il faut. Voilà. Ah ouais, les machines que tu vois, les 23 500, elles sont arrivées au dépôt. Ouais, les TER, on nous a dit, bon, mais c'est les nouveaux engins. D'accord. Ben, heureusement que tu as une culture cheminote et tout ça. Et bon, je te dis, tu es toujours débrouillé, donc débrouille. Mais Il a fallu se bagarrer pour avoir des documents techniques, pour avoir des formations sur les organes, pour avoir de savoir comment elles fonctionnaient. Et on a découvert au fur et à mesure des choses sur les engins. Chez nous, il faut le vivre pour le croire, tout ce qu'on raconte. Chaque fois que je parle avec des gens, ils se disent « mais c'est la SNCF quand même ». Oui, on est peut-être l'entreprise la plus structurée en France où il y a une réglementation pour chaque chose qui se passe dans l'entreprise. Il y a une réglementation. Il y a un papier qui te donne une base de travail, une base de procédure, une base... Donc, on ne devrait pas avoir de problème sur l'organisation. Et pourtant, on est sûrement l'entreprise où il y a le plus de problèmes sur l'organisation parce que personne, finalement, ne va respecter toutes ces procédures et ces réglementations. Eh ben, un exemple. Quand tu mets tes engins sur... tu fais rentrer des engins pour faire la maintenance. Donc, je t'ai expliqué que tu prends en charge l'engin, tu la poses sur une voie de visite, il faut que tu mettes tes carrés pour pouvoir travailler sur l'engin, alors que tu as monté un carré avec ton cadenas et tout pour dire que l'engin ne doit pas bouger, bah, ben, des fois, tu te retrouves avec... tu fais ton travail et tout, tu reviens le lendemain matin, ton engin, il a bougé. Tu vois que l'engin a bougé. Alors, si tu avais démonté un organe et tout, qu'il ne fallait pas que la bouge, et il y a des choses qui sont arrivées comme ça. Il y a des collègues qui ont démonté des essieux sur un engin. Bon, on a fait bouger la machine avec le truc qui tapait contre l'engin. On a défoncé l'engin et on l'a fait revenir. Et ça, c'est les chefs d'atelier qui donnent l'ordre de faire bouger l'engin. Tu donnes la réglementation, tu l'appliques et tu vois que les premiers qui sont là pour te la faire respecter, qui sont la hiérarchie, la contourne ou s'assoit dessus. On était 6 à l'équipe. 6 cheminots à statut technicien de la boîte. On a explosé les horaires en faisant jour-nuit, donc en augmentant la plage horaire de 24 heures sur 24, tous les jours, mais avec ces mêmes 6 bonhommes. Donc tu en mettais de là et de là. Donc tu n'as plus la force de frappe sur la vacation pour pouvoir faire un nombre d'engins considérable ou un nombre de visites considérable. Ils nous avaient dit, non, ça serait nickel, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, ils sont 3 titulaires, donc cheminots à statut, etc. Et ils travaillent avec 5 intérimaires en permanence. La qualité du travail entre des bonhommes qui ont suivi les écoles de réseau, qui ont été formés par les anciens, qui connaissent les séries, etc., tu l'as plus. Là, tu as des bonhommes que tu dis, bon, ben, tu me démontes ça, tu me remontes ça, mais qui n'ont plus la vision générale du travail. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de machines où il fallait repasser derrière parce qu'il y avait des isolateurs qui étaient mal mis, des machins, des mauvais câblages, surtout une fois sur le frein, les mecs ils finissent, il y avait des fuites de partout sur le réseau d'air parce qu'ils avaient oublié de mettre des joints, machins. Bon, donc ça veut dire que sur la connaissance du travail et sur la documentation technique, en tant que cheminot, tu le connais le travail, tu connais les fiches techniques et tu sais ce qu'il faut mettre là, ce qu'il ne faut pas mettre là, etc. Et sur quoi il faut faire attention. Alors, ce n'est pas pour dire qu'ils ne sont pas bons, parce que ces gars-là, ces gens-là, non, on leur a dit, bon, ben, tu me changes ce tuyau. Ben, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu avec les connaissances qu'ils avaient. Ce n'est pas pour les tuer à eux. C'est, au contraire, hein, je t'ai dit, si on avait pu les embaucher pour leur donner la formation, le machin, qu'ils soient de bons cheminots et qu'ils soient enfin libérés de leur carcan d'être intérimaire et d'être un salarié avec tout ce qu'il faut à côté, ça aurait été super. Sauf que ce n'était pas l'objectif. Alors après, est-ce que forcément sur la longueur, on va avoir des problèmes techniques purement de machines pour dire, ben, regardez, vous avez tout fait faux, ou alors eux de s'enorgueillir qu'ils avaient raison de prendre des gens lambda pour faire le travail, ben, on le saura, je pense, dans les années qui vont arriver. Thank you. la dernière lutte qu'on a menée sur le dépôt, donc était le passage en 2-8, parce qu'on nous a dit, bon, ben, comme ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas à rendre les machines comme il faut et on n'arrive pas à faire la maintenance, on va faire en 2-8, c'est-à-dire on va faire jour et nuit, 7 sur 7. Mais comme on leur a dit, mais c'est pas, le problème n'est pas de savoir quand est-ce qu'on fait la maintenance, le problème est de savoir avec quoi on fait la maintenance. Et la lutte, ce n'était pas de dire on veut gagner des sous, on veut gagner des congés, ou on veut gagner du temps. La lutte, c'était de... Le cahier revendicatif qu'on a présenté au patron, c'était un cahier technique à présenter à un bureau d'études, de savoir les infrastructures dont on avait besoin sur le dépôt. Je te parle de quelque chose qui ne sont même pas des revendications, finalement. Elles en deviennent, parce qu'on sait que ça va nous aider, mais au final, c'est juste le travail d'un bureau d'études SNCF de savoir comment aménager un dépôt de production important et stratégique pour qu'il soit plus fonctionnel. À la limite, on n'aurait jamais dû à y venir, quoi, là-dessus. Mais bon, réponse, on nous a dit, mais comme tout le temps, hein, mais vous avez raison. Mais on ne le fera pas parce que c'est trop cher. Voilà. Donc la réponse, c'est ça. Donc tu mélanges tout ça et ça te fait une production qui est péjorée tous les jours. Mais quand tu es au tous les jours, tu te rends compte que ta production maximale, tu ne peux jamais la faire. Tu as les pièces qui manquent, tu as n'importe quoi. Voilà. Et à ce niveau-là, c'est se demander si les gens qui sont responsables de la mise en place de la production, si ce n'est pas voulu, quoi. Voilà, tout simplement. De faire perdre les compétences, la technicité, la puissance de frappe d'une boîte historique pour pouvoir la lâcher au final facilement en disant regardez, ils sont pas bons. Voilà. Comment ça se fait? Alors déjà, la faute, c'est moi qui l'ai commise. Donc, c'est-à-dire que quand tu es en société, que tu dépasses la borne, bon, ben, forcément, tu es sanctionné. Sauf que après, ce qui n'est jamais regardé, c'est comment tu en arrives à ce genre de choses. Quoi, tu vois? Donc, bon, ben, moi, c'est passé un jour ou un jour sans, hein, ou je ne sais pas pourquoi, parce que moi-même, je n'ai pas la solution, je n'ai pas l'analyse, mais ouais, j'ai pété un boulon. Le directeur de production, chef de production, dans le contexte d'un entretien avec un autre salarié et son chef d'équipe et lui-même, de savoir pourquoi il n'a pas été reconnu au niveau de l'avancement en grade. Donc on se retrouve dans cette configuration-là et d'avoir la discussion du pourquoi il n'est pas nommé au grade alors qu'il avait fait ci, ça, qu'il avait fait... Bon, enfin, chacun donne ses a priori, ses arguments. Et quand tu es délégué du personnel, là, tu laisses la discussion se faire. Après, tu finis en reprenant les arguments et en les tournant de façon à ce que ça soit compris. Pourquoi on ne comprend pas, justement, le fait qu'il ne soit pas nommé. Et je prends l'exemple de mon équipe où, ce jour-là, j'avais une embauche vide. Alors que, comme je t'ai expliqué auparavant, il y avait des intérimaires qui faisaient du travail qui nous était propre. Et pourquoi ce jour-là, on n'avait pas d'embauche, nous, à l'équipe, alors qu'on avait des intérimaires qui travaillaient, etc., etc. Et le type, il me répond, si vous aviez fait votre travail, si vous l'avez bien fait, vous ne l'auriez pas perdu. Ça veut dire que pour lui, l'équipe dans laquelle j'étais, donc les appareils électriques, on était des gens pas compétents, des feignants, et que c'était normal qu'on nous remplace par d'autres personnes. Voilà. Bon, sauf que dans l'habitude de ces discussions-là et du rapport que l'on a avec la hiérarchie de la discussion, normalement, j'aurais dû répondre par la parole et avec l'argumentaire sur ce genre de provocation. Sauf que ce jour-là, ben, va savoir pourquoi, j'ai pas réfléchi comme ça. Ben, j'ai même pas réfléchi du tout, j'ai même pas compris. J'ai sauté dessus, j'ai secoué, tatac, et je l'ai mis par terre. Voilà, j'ai un trou. Hein, voilà, c'est le corps qui a réagi et pas la tête. Voilà. Alors après, malgré tout ce qui a été dit, je ne l'ai pas bastonné comme je me bagarre, tu vois, mais je l'ai pris, j'ai secoué vraiment violemment. Du coup, il est tombé et par terre, je l'ai secoué. Je disais, comment, nous, on ne fait pas notre travail, Donc, quand tu connais tout le contexte dont je t'ai parlé jusqu'à maintenant, etc., la reconnaissance des agents, le travail que tu peux faire, l'état de conflit permanent entre ce que tu fais, ta reconnaissance de ce que tu fais et ce qui n'est pas reconnu, ce qu'attend la boîte de toi, c'est-à-dire d'arrêter d'argumenter sur le travail et de travailler et de faire plus encore avec les moyens que tu as, etc. Bon, ben voilà, c'est mal passé. D'entendre une phrase comme ça ce jour-là, avec tout ce que j'avais connu et sur quoi on se battait, c'était pas entendable à ce moment-là. Voilà. Sanction suprême, hein, la boîte, c'est fait comme l'armée. Donc, tu as une ligne hiérarchique, tu as un cadre militaire, si tu dépasses ce cadre, bon, ben, sanction, tu vas à la porte. Donc, c'est très rare chez nous d'être licencié, il n'y a pas de licenciement purement, mais bon, quand tu dépasses la borne et que tu as fait une faute, là, par contre, tu es éjecté, quoi. Et tu passes dans tout le cadre réglementaire, c'est-à-dire conseil de discipline, passage au CE, etc., pour valider ton licenciement pour faute grave. Le souci, c'est pour revenir aux conditions de travail, tout ce que je te dis, c'est quand tu es dans le milieu. Alors moi, c'est sûrement une accumulation de plein de choses. Hein, le changement des rythmes de travail, où je me suis retrouvé avec complètement déconnecté au niveau santé. J'arrivais plus à dormir. Le fait de travailler la nuit, ça me perturbait. J'arrivais pas à récupérer, etc. La charge du secrétaire CHSCT et d'amener le CHSCT avec toutes les problématiques qu'il y a et de jamais avancer, de jamais sentir qu'il y a un avancement, qu'il y a quelque chose qui se fait dans les bonnes réflexions. C'est-à-dire, il y a un travail, il y a un problème, comment on le résout et comment on avance. Il n'y a jamais cette volonté d'avancer ensemble. La position de la boîte, de s'arc-bouter sur le fait de dire non, mais économiquement, nous, on ne peut pas et on ne fera pas, quoi. Un souci, donc l'équipe de Bogicaisse qui avait des besoins d'alimenter en huile, en cardium, les bogies, où les mecs se retrouvaient à remplir l'huile, le cardium, avec des bouteilles plastiques ou alors un récipient avec un entonnoir sur des machines qui font 100 mètres de long. Donc c'est un temps précieux sur la production que tu perds, ou tu te fais chier, quoi, toi, à faire ça, ou tu réussis à faire comprendre qu'il y a un problème en CHSCT et de faire avancer le fait qu'il faut une infrastructure qui puisse distribuer ces huiles avec une longueur de tuyau chauffée, parce que c'est compact, etc. On débloque un financement, il n'est pas suffisant pour avoir un tuyau de longueur suffisante pour arriver jusqu'au bout de la machine, et on ne chauffe pas le tuyau. Et ça, c'est tous les jours, au niveau des discussions de représentants du personnel au CHSCT. Et voilà, donc, donc tu n'avances jamais. Voilà, tu es toujours dans le petit truc à faire, mais sans avancer complètement. Et la boîte de dire, mais on a quand même investi. Oui, mais vous avez investi encore à moitié. À moitié, on ne règle pas le problème, on est toujours dans le même problème. Et on te dit, non, mais tu n'as pas voulu faire le travail. Mais après, ça m'a retourné. Ça n'aurait pas dû me retourner à ce point-là, dans le sens où je connais les trucs, je connais les réponses. J'aurais dû y répondre par l'argumentaire, et j'en étais largement capable, et ce que je fais tout le temps. Mais là, ce jour-là, ben, c'est pas passé, je sais pas pourquoi. Et bon, là, c'était tombé à un moment où ça s'est passé comme ça, puis voilà. Donc, bon. Et dans cet intervalle qui dure quand même un an, bon, bien sûr, toute la solidarité cheminote du syndicat, etc., qui m'ont épaulé jusqu'au bout, quoi. D'ailleurs, j'ai dû payer au niveau justice 4 500 €, dommages et intérêts, plus les frais de justice, plus le, voilà. Ça a été payé par les collectes des collègues, quoi. Voilà. Un grand merci à tous les cheminots, et même pas que les cheminots, puisqu'il y a... Il y a eu un appel à collecte sur l'ensemble de la région, sur les syndicats CGT. Il y a, je crois que c'est le carrefour de Port-de-Boux, je crois que c'est un carrefour, quoi, qui ont fait une collecte de 200 €, enfin, un truc inimaginable, quoi. Chaud, c'est que tu te rends compte que pour aller 30 secondes, une minute d'égarement et de folie, bon, ben, tu payes une vie, quoi. C'est-à-dire, tu payes ton métier, tu le perds à une fraction de seconde, quoi, tu vois. Tac, tac. Tu perds donc tout ce que je t'ai dit, tout l'engagement, tout le travail que tu as fait au niveau syndical, mais surtout tous tes potes, quoi. Tu perds tout, quoi. Ton métier, tes potes, et ce que tu vas trouver, tu sais que ce ne sera pas à la hauteur de toute façon de ce que tu as perdu. Tu ne fais plus partie de ce lien que je t'ai expliqué, cheminot, tu es cheminot, tu vois. T'es sorti, tu n'es plus. Oh, c'est incroyable, quoi. Tu vois, tu te dis, putain, c'est pas possible.
Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train.
La parole au travail, une série documentaire de Christophe Massot.